Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Mélomanie pour le 143e numéro de votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Je vous avais annoncé la semaine dernière que nous allions poursuivre aujourd'hui le cycle consacré à Mozart. En abordant ses symphonies ou ses pièces de musique de chambre, j'ai préféré finalement différer la suite de cette série d'émissions parce qu'il y a eu récemment une petite actualité musicale et qu'il va y en avoir une encore prochainement. Le 24 février a eu lieu la cérémonie des victoires de la musique classique, où d'ailleurs plusieurs musiciens toulousains figuraient parmi les finalistes. Et ce samedi 6 mars, l'Orchestre National du Capitole donne un concert retransmis en direct à 18h de la Halle au Grain sur sa page Facebook et sa chaîne YouTube. Il y a donc matière à vous proposer un nouveau numéro consacré et connecté à l'actualité immédiate. Et je vais avoir le plaisir de l'animer avec les frères amis et non pas ennemis du site Classique Toulouse qu'ils ont tous les deux cofondé, mes chers camarades Serge Chouzy, également chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi, et Robert Pénavert qui chronique pour les sites Culture 31 et Actu Toulouse, ainsi que pour les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi. Voilà notre trio enfin reformé pour un retour arrière sur le palmarès des victoires de la musique classique 2021.
Mélomanie, retour arrière.
Bienvenue aussi à tous les deux, Robert et Serge. Ça fait plaisir de se retrouver tous les trois dans ce studio pour
parler. Le plaisir est partagé.
Mais je le sais.
Tout à fait.
Et on va pouvoir enfin parler tous les trois de notre passion commune et la partager avec les auditeurs. Nous allons donc d'abord revenir sur le palmarès des victoires de la musique classique, dont la cérémonie de remise des récompenses a eu lieu la semaine dernière à l'Auditorium de Lyon. Nous l'avons suivi à la télévision avec encore plus d'attention que les autres années, d'une part parce que nous sommes sevrés de concerts en ce moment, et d'autre part parce qu'il y avait, comme je l'ai rappelé il y a quelques instants, plusieurs musiciens toulousains parmi les finalistes de cette édition 2021, notamment notre ami Thibaut Garcia, que nous avons souvent reçu à Mélomanie. Thibaut était sélectionné dans la prestigieuse catégorie soliste instrumental de l'année et il avait pour concurrent les pianistes Katia Bouniatichvili et Alexandre Tarot. C'est finalement ce dernier, l'aîné des trois, qui a été récompensé. Et bon, même si nous sommes bien sûr déçus pour Thibaut, ça n'a rien de scandaleux parce qu'Alexandre Tarot, c'est un très grand pianiste, l'un des tout meilleurs que la France ait produit ces 30 dernières années. Qu'est-ce que vous en pensez, Robert et Serge ?
Oh bah oui, effectivement. Rien d'anormal dans le fait que l'on ait sacré Alexandre Tarot, qui est vraiment un très grand pianiste, qui a un répertoire extrêmement large, qui va du baroque, de Bach à la musique contemporaine. Et donc c'est un très grand pianiste, rien à redire à ce qu'il remporte cette victoire 2021. Il en avait déjà remporté une d'ailleurs il y a quelques années.
En 2012.
2012, voilà, presque 10 ans. Donc, très bien, grand pianiste hein, qui s'est illustré ce soir-là avec le final du concerto en sol de Ravel. Bon, c'est un spécialiste en grand ravelien.
Ah oui, c'est vraiment, je crois, son compositeur de prédilection, sans doute celui dont il se sent le plus proche.
Oui, tout à fait.
Enfin, il s'est déjà exprimé là-dessus à plusieurs reprises. Alors vous, Robert, vous connaissez un petit peu, je crois, Alexandre Tarot, vous l'avez rencontré.
Oui, je l'ai rencontré à Paris à quelques reprises, en fréquentant sa maison de disques, qui à l'époque s'appelait EMI, aujourd'hui Warner, mais je pense qu'il enregistre sous label Erato chez Warner. Mais enfin, c'est la même maison, voilà. Et j'ai eu l'occasion, mais là je vous parle d'il y a une 15-20 ans à peu près, et il était tout jeune, il devait avoir une petite trentaine d'années. Et vraiment, je me souviens de quelqu'un d'absolument charmant, d'une simplicité, on pourrait dire quasiment évangélique, alors qu'il était déjà un excellent pianiste. Et aujourd'hui, 20 ans après, bon, c'est devenu, je pense que Serge est bien d'accord là-dessus, une référence en particulier, même si, nous venons de le dire, il a un grand répertoire, mais lorsqu'il apporte un répertoire français, bon, Ravel en oui, particulier.
Ravel, Couperin, voilà. S'il a enregistré CD Couperin, bon, Bach, Chopin, bien sûr, Satie aussi, grand spécialiste d'Eric Satie.
Oui, oui, oui.
Thierry Pécou, ça va jusqu'au contemporain.
Exactement, il joue des créations. Hein, oui.
Très clairement, Alexandre Tarot joue dans la cour des grands.
C'est, oui, c'est une référence internationale, oui, c'est pas seulement en France. Hein.
Voilà, c'est ce que je voulais ajouter.
Et on l'a vu assez souvent à Toulouse, notamment à Piano Jacobin.
Oui, et puis il n'y a pas si longtemps avec Sabine Devielle en ouverture de saison au Théâtre du Capitole dans un programme de mélodie française.
Absolument.
Vous avez encore époustouflé en tant qu'accompagnant.
Non, parce qu'en fait, on a l'écouté très clairement dans un récital de mélodie, on va écouter
la voix.
La voix. Très bien. Eh bien là, je me suis surpris à plusieurs reprises, non pas que Sabine Vielle était négligeable, loin s'en faut, mais je me suis surpris à n'écouter que le piano, tellement c'était envoûtant ce qu'elle arrivait à faire. C'était une soirée extraordinaire.
Ouais, ouais. Poète du clavier, le terme est un peu galvaudé, mais je pense que ça lui va très bien à Alexandre Tarot. On parlait de Ravel, alors c'est intéressant parce que j'ai vu que sa première professeure, Carmen Tacon de Venat, est une ancienne élève de Marguerite Long. Donc on voit la filiation ravelienne. Marguerite Long qui fut la créatrice du concerto en sol de Ravel, oui, dont Alexandre Tarot a joué le troisième mouvement.
Ce concerto que Ravel a compris qu'il n'était pas capable de le jouer. Et donc il a dirigé l'orchestre, il a laissé Marguerite Long jouer le rôle de soliste.
Voilà, donc on l'a dit, Alexandre Tarot voue une grande admiration à Ravel. Il l'avait d'ailleurs rappelé lors de son concert avec Sabine de Vielle au Capitole en septembre dernier. C'est sans doute, je le redis, hein, je pense le compositeur dont il se sent le plus proche pour tout un tas de raisons. Il a enregistré l'intégrale pour piano seul de Ravel. Et bien voici un extrait de ce très beau CD. Alexandre Tarot joue le prélude du tombeau de Couperin de Maurice Ravel. Le prélude du tombeau de Couperin, magnifique interprétation de cette pièce de Maurice Ravel par Alexandre Tarot. Maurice Ravel, compositeur très cher au cœur de notre soliste instrumental de l'année, une récompense qui lui a été remise lors des récentes victoires de la musique classique. Notez qu'Alexandre Tarot est programmé au prochain festival de Rocamadour, dont il donnera le concert de clôture le 26 août à la Basilique Saint-Sauveur. Après le soliste instrumental de l'année, qui aurait donc pu être Thibaut Garcia, mais il y a bonne raison de penser que ce n'est que partie remise pour Thibaut, son tour viendra tôt ou tard. Honneur maintenant à un autre musicien toulousain, Aurélien Gignoux. Le jeune percussionniste en effet effet reçu la victoire de la révélation soliste instrumentale de l'année. On est évidemment très heureux pour lui parce que c'est un grand talent, mais aussi parce que cette distinction récompense une fois de plus la qualité de la formation musicale toulousaine, notamment celle du Conservatoire à rayonnement régional, dont est issu Aurélien Gignoux, comme l'ont été avant lui Bertrand Chamaillou, Fabrice Milichère, Adam Laloum, Benjamin Tahir, dont nous allons reparler dans quelques instants, et Thibaut Garcia bien sûr. Serge, Robert, un mot sur Aurélien Gignoux, cet enfant de la balle, né au sein d'une grande famille de musiciens, et que vous avez vu débuter en concert, Serge. Il y a une dizaine d'années au Clé de Saint-Pierre.
Mais oui, j'ai même retrouvé la date exacte. C'était le 4 avril 2011. Il avait donc 13 ans à peu près. Hein. Et donc, c'est la première fois que je le voyais, bien entendu. Il était tout gamin. Hein. Et donc, il a participé à un concert des Clés de Saint-Pierre. Vous savez, ces concerts de musique de chambre donnés par les musiciens de l'Orchestre National du Capitole. Il était là aux côtés de sa mère, qui s'avère être flûtiste. C'est Cécile Robillard, qui porte un nom célèbre, puisque... elle est la fille du grand Louis Robillard, un grand organiste, grand improvisateur. Et évidemment, Aurélien, il appartient à une famille musicale.
Il n'y a que des grands musiciens. Hein. Oui. La mère, son père aussi était oboïste à l'Orchestre National du Capitole.
Exactement, Laurent
Gignoux.
Laurent Gignoux était, et d'ailleurs, il semblerait qu'ils se soient rencontrés, les deux parents d'Aurélien, au sein de l'Orchestre National du Capitole.
Donc, puis il a de nombreuses oncles et tantes, donc les frères et sœurs de sa mère, les fils et les filles de Louis Robillard, qui font aussi de très belles carrières. Alors, ce sont surtout des violonistes, des violoncellistes et des pianistes. Et lui, percussionniste. Alors, c'est l'original de la famille.
Tout à fait, mais en tout cas, c'est une belle initiative, puisque je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de victoires de la musique accordées à des percussionnistes.
J'ai tendance à penser que c'est même la première, percussionniste.
Ce serait vraisemblable.
On va vérifier, mais je pense.
C'est très possible.
Alors, Robert, vous l'avez interviewé.
Voilà, oui, vraiment, ça a été un grand plaisir parce que, je ne le connaissais pas, hein, mais on a parlé un peu et puis j'ai lu quelques autres interviews qu'il avait données précédemment, dans lesquelles j'ai appris qu'en fait, il a fait connaissance avec l'Orchestre du Capitole, il avait un an à peine, et que ses parents se souviennent que, dès que les percussions commençaient à jouer, il avait les yeux qui s'agrandissaient, qui devenaient comme des soucoupes. Et puis, il ne parlait après que de ça. Résultat, à l'âge de 4 ans, ils ont commencé, à force de le voir martyriser des casseroles et des poêles, ils lui ont offert quelques instruments de percussion. Et voilà, c'est une vocation.
Il est vraiment tombé dedans dans la marmite quand il était petit.
Voilà.
C'est vraiment ça.
Mais
la casserole.
C'est une vraie vocation. Alors, ce que je voudrais dire, d'abord, il est jeune, mais malgré son jeune âge, je me suis trouvé face à un artiste, parce que c'est un vrai artiste, face à un artiste d'une maturité.
Mais c'est ce que vous m'avez dit, ça
de
vous
réflexion
a frappé,
absolument a incroyable. Moi qui pensais simplement poser des questions, alors c'est victoire, alors. Non, j'ai vite compris qu'il me fallait passer à
la taille
au-dessus. Voilà, très clairement. Parce que donc, il m'a parlé de son goût pour l'improvisation, il m'a parlé de son souhait de travailler avec des compositeurs actuels. Son rêve aurait été de rencontrer Stravinsky.
Pour un percussionniste, ça ne m'étonne pas.
Voilà.
Parce que les percussions, quand même, dans les œuvres de Stravinsky.
Il a bien compris que. Il le rencontrerait, mais bien plus tard. Mais là, pour l'heure, c'est pas possible. J'ai rencontré un personnage, un vrai musicien. Alors, vous savez qu'il appartient à... Il a créé un trio.
KDM, le trio KDM. Je ne sais pas ce que lettres représentent.
C'est un trio dans lequel il y a un autre percussionniste, il y a un accordéoniste. Enfin, ils ont un répertoire très varié dans lequel il y a Piazzolla, il y a des arrangements. Mais c'est passionnant à écouter parce qu'en définitive, on s'imagine percussionniste... On s'imagine tambour, on s'imagine gong, timbales, non.
Oui.
C'est des dizaines d'instruments.
C'est un véritable cabinet de curiosité.
Tout à fait.
Et alors, ce dont dispose un percussionniste comme instrument.
Aurélien va les interpeller pour créer des univers, des mondes qu'il m'a fait personnellement découvrir. C'est vraiment un musicien passionnant.
Oui,
passionnant.
C'est pour ça aussi que je trouve formidable que ce soit un percussionniste qui a été récompensé. Oui.
C'est pas n'importe quel classique. Percussionniste.
Mais certainement pas, parce que sinon il n'aura pas été sélectionné. C'est pas seulement l'instrument, évidemment, qu'ils ont voulu récompenser.
Mais en plus, on a pu constater dans sa prestation au cours de la cérémonie des victoires, la musicalité avec laquelle il touche.
Oui, je pense que c'est un musicien.
Un musicien, voilà, vraiment.
Un musicien, et en plus, je tiens à le souligner, c'est un artiste, parce qu'il fait dire quelque chose à ses instruments. C'est pas que du son.
Il est temps d'écouter Aurélien Gignoux nous montrer toute l'étendue de son talent aux percussions. Il interprète ici au marimba les barricades mystérieuses de François Couperin. Les barricades mystérieuses de François Couperin, encore Couperin, une transcription interprétée au marimba par le très talentueux Aurélien Gignoux, qu'on invitera bien sûr dans cette émission dès que possible, peut-être lorsqu'il reviendra à Toulouse pour fêter sa récompense. Nous allons poursuivre avec les victoires de la musique classique dans le domaine lyrique. Comme pour les instrumentistes, il y en a deux, l'une remise à un chanteur ou une chanteuse déjà entrée dans la carrière, et l'autre à un jeune talent prometteur. Et l'artiste lyrique de l'année, c'est la soprano Julie Fuchs, qui était en compétition avec Léa Descendré et Véronique Jans. Robert, votre avis, est-ce que c'est une récompense logique et méritée ?
Oui. Alors, vous avez bien fait de parler, parce que lorsqu'il y a une victoire, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, d'accord, c'est pas moi qui le dis, ça a déjà été dit, mais effectivement, elle a gagné, mais face à qui ? Alors, effectivement, il y avait Léa Desandré, qui est une mezzo-franco-italienne, qui a 28 ans, qui est toute jeune, hein, et il y a Véronique Jans, bon, qui a 56 ans aujourd'hui, voilà, hein, qui est une soprano française de répertoire classique, qui concourait indirectement aussi dans la catégorie enregistrement de l'année. Mais venons-en donc à Julie Fuchs. Elle a 37 ans aujourd'hui, donc elle se situe, bon, entre ces deux challengers. Alors, elle aussi est d'un répertoire classique. Alors, elle a un peu le répertoire de Véronique Jans, mais on s'aperçoit, en les comparant dans leur répertoire, qu'effectivement, les voix ne sont pas tout à fait les mêmes. Par exemple, dans Don Giovanni, Julie Fuchs chante Zerlin, alors que Véronique Jans, elle, c'est plutôt Elvire. Par exemple, dans Falstaff, Julie Fuchs chante Nanette, alors que Véronique chante Alice. Donc, vous voyez, les voix ne sont pas quand même tout à fait identiques. Alors, cela dit, à son répertoire, il y a quand même ses révélateurs de ses capacités aujourd'hui. Elle chante la Zerbinetta d'Ariane Naxos de Richard Strauss, qui est quand même un répertoire de soprano colorature aiguë.
Soprano léger. Ouais.
Voilà, soprano voilà léger. C'est le répertoire voilà. De soprano léger.
Alors, cela dit, prochainement, elle va aborder Juliette.
Ah.
Alors, Juliette, vous le savez, Juliette souffre de son personnage, qui est un personnage jeune, etc., et qui souffre du premier air de la partition, « Ah, je veux vivre », etc., avec plein de vocalises dans tous les sens, qui ne veut pas dire grand-chose, mais parce qu'après, le rôle de Juliette commence après. Voilà, et dans le rôle de Juliette, et vous le savez, il y a un air quand même relativement difficile, le fameux air du poison, qui est lui carrément dédié à un grand lyrique. Sinon, on n'entend plus rien, parce qu'en plus, il est très orchestré, mais Julie Fuchs va donc chanter ce rôle-là, dont preuve peut-être que sa voix est en train, à 37 ans, à l'aube de ses 40 ans, peut-être commence à évoluer. Alors, dire pour son histoire que c'est un pur produit du Conservatoire d'Avignon, où elle a fait quasiment toutes ses classes.
Oui, où vivent ses parents, où elle a grandi, c'est
voilà,
sa vie, l'Avignon.
Son papa était directeur commercial d'une grande société et sa maman était professeure de natation, à croire que peut-être elle y a appris ce que c'était
la respiration.
Voilà. En 2006, donc, elle rentre au Conservatoire de Paris, elle n'a que 22 ans. Et ensuite, elle entame un parcours très instructif, puisque de 2013 à 2015, elle sera en troupe à Zurich. Alors, il y a des troupes, vous savez, en Suisse, en Allemagne, en Autriche, bon, il y a des troupes de différents niveaux. La troupe de Zurich est vraisemblablement l'une des plus grandes troupes que l'on peut trouver. À titre d'exemple, il y a 30 ans, parmi les ténors, il y avait Jonas Kaufmann dans la troupe de Zurich. Voilà, c'est dire le niveau de la troupe de Zurich. Elle y reste 2 ans et après, elle en sort, elle commence à signer un contrat d'exclusivité chez Deutsche Grammophon, ce qui n'est pas forcément neutre aujourd'hui, au point de vue notoriété. Et aujourd'hui, elle est demandée dans le monde entier. Elle a chanté au Festival de Salzbourg. Alors, pour la petite histoire, c'est elle qui devait chanter son premier Wagner. Elle devait chanter dans la nouvelle production du Ring de l'Opéra de Paris, signée de Calixte Biaito, qu'on n'a pas vu, peut-être qu'on ne verra pas d'ailleurs, à vrai dire. Et elle faisait évidemment, elle faisait l'oiseau dans Siegfried, parce que je pense que c'est à peu près le seul rôle qu'elle puisse chanter. Et alors, c'est une femme d'ailleurs, quand on la voit sur scène, alors malheureusement, je ne me souviens pas de l'avoir entendue sur scène, je dis bien, au Capitole de Toulouse. Je ne crois pas, je ne sais pas si vous en avez le souvenir.
Non, je pense voilà. Qu'elle n'est encore jamais venue à Toulouse.
J'espère que Christophe Gresti, comme Laura, se manque, parce que c'est une artiste, je l'ai vue par ailleurs, et c'est une vraie artiste et qui a beaucoup de tempérament.
Oui,
croyez-moi, beaucoup de tempérament.
Aussi, oui,
et donc, effectivement, en 2018, où elle était, on va dire, au centre d'une tempête médiatique, parce que voilà, elle devait chanter la flûte enchantée, Laura Lepamina, à l'Opéra de Hambourg, et puis, en fait, le directeur de casting, soi-disant pour des questions de sécurité, envers elle, bien sûr, nous sommes en 2018, il n'y a pas question de pandémie, bon voilà, a cassé le contrat unilatéralement lorsqu'il a appris qu'elle était enceinte de 4 mois. Bon, à vrai dire, semblerait-il, vraiment, à la loupe, ça se voyait un peu. Mais bon, cela dit, Julie Fous était dans une forme absolument olympique.
Oui, qui n'empêchait pas de chanter.
Elle n'arrêtait pas de remplir des contrats. Mais l'Opéra de Hambourg, pour des raisons qui sont peut-être obscures finalement, a décidé de rompre son contrat. Inutile de vous dire que Julie Fous ne s'est pas laissée faire du tout. Elle a déclenché un véritable tsunami là-dessus. Son témoignage a été porté dans le grand public et cela a permis de mettre en lumière les progrès qu'il y avait à faire quand même concernant les droits des femmes. Parce que bon, je ne vois pas pourquoi une jeune femme enceinte de 4 mois ne pourrait pas chanter Pamina.
Dans la mesure où physiquement elle est apte.
Il y en a d'autres qui ont chanté, elles étaient enceintes de 8 mois. Peut-être qu'elle chantait pas Juliette, d'accord. Mais enfin, elle pouvait, vous savez, il y a des costumes, il y a le regard distancié du public. Je sais pas. Et je vous signale qu'elle a gagné, puisque l'Opéra de Hambourg a été jugé coupable.
De rupture de contrat abusive.
Voilà, et plus que ça, d'une discrimination.
Oui.
Et donc, ils ont été obligés, alors qu'elle ne les a pas chantés, ils ont été obligés de lui payer l'intégralité de ses contrats. Voilà. Moi, je trouve ça admirable comme volonté de faire valoir ses droits. Voilà. Alors, vous savez aussi que le très, très grand public la connaît aussi, Julie
oui,
Fuchs.
Dans le jury de Prodige.
Depuis 2020, donc elle a rejoint le jury de Prodige sur une chaîne très grande publique et aux côtés de Gauthier Capuçon, violoncelliste.
Et de Marie-Pierre Pietragala.
Et de Marie-Claude Pietragala, qui est donc danseuse. Voilà. Et donc depuis, bon, évidemment, c'est une émission Prodige qui a eu un audimat absolument colossal.
Oui, oui.
Et donc voilà, elle y siège.
Eh bien, pour vous faire entendre la belle voix de Julie Fuchs, je vous propose de l'écouter dans une interprétation d'un air célèbre de Roméo et Juliette. Vous venez d'en parler, Robert, l'opéra de Charles Gounod, la valse de Juliette, « Je veux vivre ».
Vivre dans la rêverie, mon ivresse, jour, nuit.
La valse de Juliette, Je veux vivre, air extrait de Roméo et Juliette, l'opéra de Charles Gounod, chanté par Julie Fuchs, qui a donc été désignée artiste lyrique de l'année lors des victoires de la musique classique 2021. Nous allons rester chez les chanteurs et même chez les chanteuses, puisque la révélation artistique lyrique de l'année, c'est une autre soprano, Marie-Laure Garnier, qui était opposée à Jeanne Gérard et Marie Oppert. Marie-Laure Garnier, on la connaît à Toulouse, puisqu'on l'a vue il y a 2 ans dans La Valkyrie de Richard Wagner. Et elle a donné également un récital lors d'un midi du Capitole. Robert, vous l'avez entendu, vous l'avez même interviewé. Que pensez-vous de cette jeune chanteuse ?
Alors, d'abord dire, mais vous l'avez dit en creux, là, cette année, côté artiste lyrique, pas un seul homme.
Eh oui.
Ça veut dire que... Qu'est-ce qui se passe ? Bon, j'espère rien.
Vous avez remarqué, si dans une compétition, il n'y a que des hommes, tout le monde pousse les hauts cris, voilà. S'il n'y a que des femmes, personne ne dit rien.
Voilà.
Bon.
Mais là, bon, écoutez, peut-être qu'il y avait... Il n'y avait personne. Mais
vous parlez de creux, il y a peut-être un creux dans les générations d'hommes.
Oui, ni un artiste lyrique confirmé, ni révélation. Souhaitons
oui, 3 femmes dans les 2 catégories, effectivement.
Voilà, bon, bah, écoutez. Alors justement, Marie-Laure Garnier, elle était donc en concurrence, si l'on peut dire, avec une soprano française qui a tout juste 30 ans, et qui s'appelle Jeanne Gérard. Elle est dans la nouvelle production de Werther à Nice, Wesh & Sophie. Donc ça donne idée de son répertoire. Hein. Et puis elle avait en face d'elle quelqu'un beaucoup plus connu, qui est Marie Oppert, beaucoup plus connue, mais elle n'a que 24 ans. Et elle est très 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 connue parce qu'elle chante dans des comédies musicales. Et entre autres, elle avait fait, en 2014, elle était toute jeune, hein. Elle avait chanté Geneviève dans la reprise des Parapluies de Cherbourg au Châtelet. Et donc ça, évidemment, ça donne de la notoriété, ce genre de choses. Voilà. Alors, je pense que c'est plutôt, effectivement, elle se dirige vers une carrière de comédie. Elle a chanté dans Street Scene, enfin, voilà. Bon, bref, mais cela n'a rien de péjoratif dans mon discours. Entendons-nous bien. Venons-en à Marie-Laure Garnier. Alors, Marie-Laure Garnier, je la connais effectivement depuis quelques années parce que on peut dire que c'est une trouvaille de Christophe Gristy. C'est lui-même qui me l'avait présentée lorsqu'il est arrivé à Toulouse. Alors, elle est guyanaise, hein, et elle a tout juste 30 ans aujourd'hui. Elle intègre le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris en 2009. Elle y restera 7 ans. Mais alors, lorsqu'elle sort, c'est pas pour rien. Elle sort avec une véritable boîte de diplômes,
oui.
de chant et un master de musique de chambre. Alors, c'est pas neutre parce que quand on l'entend, on se doute bien qu'il y a une musicienne derrière. Mais vraiment, c'est très net. À 27 ans, comme vous l'avez dit très justement, Christophe l'a fait débuter pour les dernières reprises de la Valkyrie. Ce sont ses débuts professionnels à Toulouse. Elle chante l'une des Valkyries, Gerhilde. Et Christophe Gristy la suit de très très près, puisqu'il lui offre un midi du Capitole, dans lequel, évidemment, excellemment accompagnée, comme on l'imagine, par Robert Gonella, elle a interprété des mélodies de Duparc, de Poulenc, entre autres.
Des mélodies françaises, donc.
Des mélodies françaises, mais pas que. Mais aussi... Et ça, c'est plus significatif. 2 extraits d'opéra de Jules Massenet, Hérodiade et le Cid. Alors, d'Hérodiade, elle chante Salomé. Bien sûr, le Cid, Chimène. Alors, c'est tout sauf anodin parce que ce sont des rôles qui, en fait, sont très clairement écrits pour des sopranos dramatiques. Et d'ailleurs, dans la cérémonie des Césars, en direct, elle n'a pas hésité à nous interpréter l'air d'entrée d'Élisabeth du deuxième acte de Tannhäuser. Ce qui n'est pas quand même rien du tout. Et puis, je peux vous dire, non seulement le phrasé, le souffle, mais en même temps l'ambitus qui est large, les registres sont parfaitement soudés. Et je voudrais que l'aigu final qui clôt cet air, qui est un si naturel, il était d'une rondeur, d'une lumière. Et on sent à l'évidence que derrière, lutte même Ludièse, et là, il est déjà là, et sans problème. Ce qui fait que c'est, en clair, c'est quelqu'un qui pourra aller peut-être dans les années à venir, pas de suite, elle est trop jeune, hein, mais quand même dans 3-4 ans, peut-être aborder des Verdi. Voilà, après, il faut qu'elle ait, peut-être qu'il y a le répertoire gluckiste aussi. Je sais, elle m'avait dit qu'elle travaillait aussi beaucoup Mozart pour la discipline, le souffle, la musicalité. Et ça, c'est une très bonne idée, d'autant que je me souviens, c'est quelque chose que m'avait dit Régine Crespel la dernière fois qu'elle est venue à Toulouse. Toute sa vie, elle aura travaillé, mais chez elle, hein, Mozart pour le souffle et la musicalité. Donc c'est peut-être un exemple également à suivre. Alors, nous aurions dû la retrouver à Toulouse à plusieurs reprises. D'abord, c'est elle qui faisait le chœur féminin, c'est un rôle, hein, dans le viol de Lucrèce de Britaine pour la création de cet opéra qui n'a pas pu avoir lieu. Et dans la nouvelle production de Platée où elle chantait Junon. Alors, la platée, le viol de Lucrèce, je ne sais pas s'il a été reporté. Certainement,
platée,
parce que
oui.
Platée, quand que Christophe oui. Gristy a une idée en tête, bon, voilà. Mais la platée oui. de Rameau, c'est sûr que c'est reporté, je crois, pour 23-24. Et il y aura à nouveau Marie-Laure Garnier dans le rôle de platée. Mais souvenez-vous, elle était également lors des représentations de l'Ariane et Barbe Bleue de Paul Dukas, où elle chantait le rôle d'Igraine, et elle doit être, j'espère, pour terminer cette saison au Théâtre du Capitole, elle sera la cinquième suivante dans les reprises d'Electra du mois de juin.
Touchons du bois, espérons.
Oui, c'est alors, effectivement, il faut toucher du bois, mais aujourd'hui, je ne sais pas, j'ai espoir, j'ai l'impression que...
Pour le mois de juin, on peut espérer, je pense.
Les nouvelles sont bonnes.
Oui, je pense qu'on peut espérer pour le mois de juin. Alors, on ne peut pas s'empêcher de faire la comparaison, parce que Christiane Hédapierre est morte en septembre dernier, cette grande soprano originaire, elle, de Martinique. Est-ce que vous pensez que Marie-Laure Garnier pourrait se mettre peut-être dans les pas de cette grande figure du chant lyrique français?
Alors, c'est pas les mêmes, ce sont pas les mêmes voix.
Et je sais que ce ne sont pas les mêmes voix, mais je parle de la carrière, moi.
La carrière, c'est tout le mal que je lui souhaite, bien évidemment. Hein. Et si elle fait la carrière de Christiane Hédapierre, bravo. Hein.
Je ne sais pas si elle avait eu l'occasion de la rencontrer, peut-être, ça ne serait pas étonnant. Mais en tout cas, si ça avait été le cas, elle aura certainement eu de très bons conseils autour de Marie-Laure Garnier de faire entendre sa voix dans cette émission. Nous allons l'écouter dans cet air extrait de Tannhäuser dont vous avez parlé, Robert, Die Steure Halle. Marie-Laure Garnier interprétait Die Steure Halle, air extrait de Tannhäuser, l'opéra de Richard Wagner. La jeune soprano a donc reçu la victoire de la révélation artiste lyrique de l'année. Robert voulait ajouter quelque chose.
Oui, justement, on parlait du fait que, il n'y avait pas d'homme, mais c'est peut-être normal, mais j'ai repris l'historique un peu de ces victoires de la musique et je trouve qu'il y a des abonnés, c'est-à-dire il y a des personnes qui viennent plusieurs fois. Par exemple, Julie Fuchs l'a déjà été en 2012.
Révélation.
Mais alors, la championne de toute catégorie, c'est Nathalie Dessay. Elle en a eu 6 victoires. Barbara Hendricks en a eu 3. Roberto Alagna en a eu 2. On pourrait en citer comme ça
tout un tas
qui reviennent régulièrement. Alors, je trouve ça un peu dommage. Moi, j'aimerais bien que lorsqu'on a eu une victoire, on a eu une victoire. Bon, on n'en parle plus. Ou alors, c'est avoué que le vivier est en train de s'appauvrir, ce qui n'est pas le cas.
Non.
Tout le monde le sait.
Non.
Voilà.
notamment pour certains instruments, où là, il y a, voilà. Si on parle des pianistes, par exemple, la France sort régulièrement de bien très sûr. Grands pianistes.
Hein. Et en fait, ces victoires à la musique, bon, on le voit bien, d'abord, c'est donné en prime time sur une chaîne de grande audience. Voilà, c'est quand même un pied à l'étrier extraordinaire pour ces jeunes artistes. Donc, je trouve que vraiment, en redonner, ou même, là, je vois
ce que vous voulez dire.
Je ne vois pas trop le sens.
Oui, ça n'a pas trop d'intérêt. Voilà. Sauf peut-être pour les maisons de disques, éventuellement. Alors, il y a donc deux catégories dont nous n'avons pas encore parlé, celle du compositeur et celle de l'enregistrement. On commence par le compositeur de l'année. On espérait une récompense pour le Toulousain Benjamin Attahir. Et finalement, c'est une compositrice, c'est encore une femme, là, qui a été récompensée. Là, c'est original dans la catégorie compositeur. La franco-américaine Betsy Jolas, âgée de 94 ans, Serge.
Mais oui, c'est vraiment une compositrice au long cours, puisqu'elle a beaucoup composé. Elle continue à composer, d'ailleurs. Donc, c'est une grande artiste. Hein. C'est évident, elle est franco-américaine. Donc, je ne sais pas si elle a déjà obtenu une victoire.
Je ne crois pas.
Mais non. Je ne crois pas.
Hein. Non, donc, je ne crois pas. Je me demande si ce n'est pas la première compositrice. Alors je m'avance peut-être un peu.
Mais c'est tout à fait possible. Donc, évidemment, il n'y a rien de scandaleux à ce que l'on récompense une femme, une compositrice de cette envergure, hein, puisque ça a été vraiment, c'est toujours une grande compositrice. Alors elle était opposée à deux autres candidats, dont celui dont vous venez de parler, Benjamin Attahir, que l'on connaît bien à Toulouse.
Encore un ancien du conservatoire à rayonnement régional de Toulouse.
Voilà, et donc Benoît Menu, également compositeur. Alors, pour ce qui est de Benjamin Attahir, je voudrais quand même rappeler que au moins quatre de ses œuvres ont été créées par l'Orchestre National du Capitole, dont deux étaient des commandes de l'Orchestre National du Capitole. Donc il a vraiment un lien fort avec la Ville Rose, hein, donc on espère, hein, et d'ailleurs très prochainement, une autre de ses œuvres va être créée.
Dans le cadre des Franco-Russes, nous parlerons la semaine prochaine.
Exactement, donc c'est vraiment quelqu'un de très attachant. Notons que c'est le dernier élève de Pierre Boulez, et d'ailleurs l'une de ses œuvres était un hommage à Pierre Boulez, qu'il a composé à la suite de la disparition du grand compositeur, donc de son maître en quelque sorte. Bon, mais donc c'est très bien. Hein. Mais
d'ailleurs, ce qui est amusant, si on peut dire, c'est qu'il est en compétition avec Betsy Jolas, qui a l'âge à un an près de Pierre Boulez.
Exactement.
Boulez était de 25, elle est de 26.
Voilà. Oui, exactement. Donc, mais enfin, finalement, malgré sa jeunesse, Benjamin Attahir est un compositeur accompli.
Hein. Oui, bien sûr. Il a 32 ans, bon voilà, il entre lui aussi dans une certaine maturité. Bon, pour les compositeurs, la carrière peut être très longue. La preuve avec Betsy Jolas, hein, c'est incroyable. Quand même. Hein.
Ah oui,
à 94 ans, et effectivement, elle compose encore.
Oui, elle compose encore.
Donc c'est pas seulement un prix qu'on remettrait à quelqu'un pour l'ensemble de sa carrière. Non, c'est vraiment un compositeur, une compositrice en l'occurrence, qui est toujours en activité.
Oui, exactement. Et qui possède un style très personnel de composition.
Oui. Alors il y a une certaine proximité avec Boulez. Hein,
oui,
on voit qu'ils sont de la même génération. Ils ont eu un peu les mêmes maîtres, parce qu'elle a eu Messiaen.
Hein, voilà.
Elle a eu Darius Milhaud. Darius Milhaud était un de ses premiers maîtres. Alors elle est née à Paris, d'un père américain, mais d'origine lorraine. Hein. Part aux USA en 1940, elle revient en France en 1946 et là elle rentre au conservatoire et c'est donc là qu'elle va fréquenter Messiaen, Darius Milhaud et quelques autres. Voilà, récompense méritée, je pense, moi il me semble, je trouve ça personnellement très bien. Alors Robert, vous vouliez nous raconter une anecdote qui est assez amusante concernant Betsy Jolas, qui en fait concerne ses parents.
Avant de passer à cette anecdote, qui est vraiment une anecdote, bien sûr, je crois que mon raisonnement par rapport à l'attribution des victoires, je pense que Betsy Jolas, une compositrice ou un compositeur, bien sûr, de 95 ans,
vous pensez que ça a pas de sens,
on lui offre une victoire pour son œuvre.
Un bâton de maréchal.
Pour son œuvre. Et peut-être la victoire du compositeur de l'année, on le donne à un jeune compositeur,
justement.
Alors, je ne sais pas si pour les artistes instrumentistes ou vocaux, la vie est dure, je crois que la vie est dure, surtout en ce moment. Mais j'imagine que pour les compositeurs, ça ne doit pas être simple, parce qu'ils ne vivent que de commandes.
Oui.
Ils vivent sur les droits lorsque ces œuvres sont reprises.
À condition qu'elles soient jouées.
Mais voilà, c'est ce que je voulais dire. Jouées. Si leur musique n'est pas jouée, alors pire encore si elle n'est pas créée.
Voilà, moi, je ne sais pas, moi, il me semble que quand j'ai appris ça, j'ai un peu sursauté. Je le croyais à peine.
Oui.
Je me dis, mais bon sang, quand on a les deux autres compositeurs qui étaient en face d'elle, bon, des victoires d'honneur, dans la musique, il y en a.
Il faudrait des victoires d'honneur, ça n'existe pas pour l'instant.
Voilà, après, bon, voilà. Donc
ça,
je... Voilà, on parlait Benjamin Atahir, Serge, oui, effectivement. Sa première œuvre a été jouée quand et a été composée quand?
Il n'y a pas très très longtemps.
La première avec le Capitole, je crois que c'est 2014. Voilà. Mais bon, il avait déjà composé avant quand.
Mettons 2010, sa première.
Oui, au mieux.
Le premier quatuor à cordes de Bessie Jolas date de 1956.
Oui, bien sûr.
Donc, je ne sais pas comment ils sont allés chercher ça. Alors, bon, allez, passons là-dessus.
L'anecdote qui n'a rien à voir avec la musique.
C'est un peu du poil à gratter qui m'énerve parce que je ne le comprends pas. Voilà. Alors, l'anecdote en question, c'est que de 1927 à 1930, Bessie Jolas, qui est née en 1926, dont elle n'a pas 94, mais 95 ans cette année.
Oui, elle les aura bientôt.
Voilà. Elle vivait évidemment avec ses parents. Elle vivait en France. Elle vivait... Alors, vous allez commencer à comprendre, à Colombey-les-Deux-Églises, et elle vivait à la Boisserie, c'est-à-dire la demeure qu'en 1934,
parce que la famille la de Gaulle, du général de Gaulle.
S'est rendue propriétaire de cette demeure.
Juste après.
Les parents Jolas étaient locataires. Mais c'est drôle d'imaginer que Bessie Jolas a vécu là où plus tard un grand homme politique français passera le restant de ses jours, quasiment.
Voilà, c'était l'anecdote que nous voulions vous raconter. Alors, beaucoup de nos auditeurs doivent se demander à quoi ressemble la musique de Bessie Jolas. Je vais donc assouvir leur curiosité avec cet extrait d'une des toutes dernière pièce composée par celle qui a reçu la victoire du compositeur de l'année 2021. Cette pièce pour orchestre a été créée en 2019, c'est tout récent, hein, et elle a pour titre « Letters of Bagville ». Letters of Bagville, pièce de Bessie Jolas. La compositrice franco-américaine a donc reçu la victoire du compositeur de l'année lors de l'édition 2021 des Victoires de la musique classique. On en arrive à la dernière catégorie, celle de l'enregistrement de l'année. Et c'est le quatuor Eben qui l'a reçu pour son coffret de l'intégrale des 16 quatuors à cordes de Beethoven. Ce coffret pour titre Beethoven All Around the World. Il faut peut-être expliquer pourquoi, Serge.
Oui, parce qu'il s'agit là d'enregistrements effectués au cours de concerts donnés sur les 5 continents. Donc, les jeunes musiciens qui composent ce quatuor Eben, quatuor français d'excellente qualité,
ça veut dire. C'est une de nos meilleures formations
absolument,
musicales de chambre en France.
Il faut redire que la France est un pays de quatuor à cordes de première qualité le plan international. On pense au Modigliani en particulier. Mais le quatuor Eben donc, a entamé une tournée mondiale au cours de laquelle Il a enregistré donc l'ensemble, l'intégrale des quatuors de Beethoven. Mais alors, sur des lieux tout à fait improbables auxquels on ne penserait pas. Hein, un enregistrement à Nairobi, par exemple. Bon, en Afrique, en Indonésie, en Asie, en Amérique du Nord.
Ah, c'est vraiment
Sud.
Beethoven tout autour du monde.
Tout autour du monde. Alors, évidemment, ça coïncidait avec le 250e anniversaire de sa naissance, puisque, il s'agissait de célébrer Beethoven. Mais vraiment, ils l'ont fait, je crois, de manière tout à fait adapté au caractère universel de la musique de Beethoven. Et je crois que c'est une victoire vraiment entièrement méritée.
Alors, on va citer les membres de ce quatuor. Le premier violon s'appelle Pierre Colombet. Le second violon s'appelle Gabriel Lemagadur. Le violoncelliste s'appelle Raphaël Merlin. Et il y a une femme dans ce quatuor, l'altiste. Eh bien, c'est une Toulousaine. Encore
Marie Chelem,
Chelem.
Eh oui, exactement.
Sœur de Guillaume Chelem, autre grand violoniste.
Grand violoniste. D'ailleurs, souvent, ils jouent ensemble. Donc voilà.
Ils jouent aussi en trio avec Nathanaël Gouin.
Voilà, exactement.
On est fiers de nos Toulousains, puis on a de bonnes raisons de l'être quand même, parce qu'ils font tous. Il y en a beaucoup qui font des carrières splendides. Hein.
Ah oui, absolument, sans chauvinisme au cœur.
Elle est toute jeune, Marie Chelem. Hein. C'est la petite dernière, d'ailleurs, dans le quatuor
ébène. Oui. Effectivement, elle est arrivée récemment au sein du quatuor ébène. Donc, je trouve que c'est une très belle victoire pour eux.
Vraiment mérité, parce que ce coffret est magnifique. Et d'ailleurs, vous allez en avoir la preuve tout de suite. Alors, j'avais l'embarras du choix pour vous faire écouter un extrait de cet enregistrement des 16 quatuors à cordes de Beethoven All Around the World. Et bien, j'ai choisi le 14e, dont voici le mouvement final Allegro, interprété bien sûr par le quatuor ébène. Le mouvement final Allegro du quatuor numéro 14 de Beethoven, interprété par l'excellent quatuor ébène, un des 16 quatuors de leur coffret CD Beethoven All Around the World, qui a donc été désigné meilleur enregistrement de l'année. Fin de ce retour sur le palmarès des victoires de la musique classique 2021. Nous allons nous retrouver dans quelques secondes pour la partie agenda de cette émission. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. À tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
Et nous nous retrouvons donc avec Serge Chauzy et Robert Pénavert pour cette rubrique agenda qui va certes être courte mais qui a sa raison d'être puisqu'il y a bien un concert à venir, celui que donne l'Orchestre National du Capitole ce samedi 6 mars à 18h. Il est retransmis en direct de la Halle au Grain sur la page Facebook et la chaîne YouTube de l'orchestre. Deux œuvres vont être jouées, Serge, lors de ce programme entièrement allemand et même romantique allemand.
Et même deux compositeurs se prénomment tous les deux Richard. Et donc Richard Wagner et Richard Strauss en l'occurrence. Donc, et l'intérêt de ce, outre le programme évidemment, mais l'intérêt de ce concert, c'est que pour la première fois, nous allons voir et entendre un chef d'orchestre qui n'est jamais venu, qui est le jeune chef allemand Thomas Gugais, et donc qui est un jeune chef avec vraiment un palmarès tout à fait
oui, déjà
flatteur. Oui. À noter qu'il est l'ancien assistant de Daniel Barenboim, qui est tout de même une référence en l'occurrence, et qu'il a fait ses études de chef d'orchestre à Munich et à Milan, qu'il a dirigé divers opéras, puisqu'il dirige autant l'opéra que le concert, au Badisches Staatstheater de Karlsruhe, ainsi qu'au Kammeroper de Munich. Et donc, il s'est formé auprès des meilleurs. Et donc, il a assisté le directeur musical Daniel Barenboim à Berlin. Et il a été d'ailleurs le pianiste répétiteur dans cet opéra Staatsoper de Berlin. Et à partir de la saison 2018-2019, il a été nommé chef d'orchestre au Staatsoper, mais de Stuttgart. Et donc là, il est...
Oui, mais tout de même, belle maison.
Très belle maison. Avec une qualité orchestrale et de scène d'opéra magnifique. Ah ben voilà, c'est donc ce jeune chef qui va venir. Il n'y a pas de soliste. Initialement, ce concert était prévu avec les quatre derniers leaders de Richard Strauss. Donc c'était un concert entièrement Richard Strauss. Mais bon, faire venir une soliste par les temps qui courent, on a préféré changer un peu le programme. Et le programme, donc, est constitué de deux mythes germaniques qui sont devenus un peu intemporels, puisqu'il y a tout d'abord le mythe de Tristan et Isolde, donc de Wagner. Il y aura le prélude et la mort d'Isolde dans sa version donc orchestrale.
Liebestaud, oui.
Voilà, ça sera le début du concert. Et puis, le concert sera complété, si l'on peut dire, par une œuvre bien connue. Alors, je le dis en allemand, Also sprach Zarathustra, parce qu'il y a deux traductions en français. Il y a Ainsi parlait Zarathustra ou Ainsi parla Zarathustra.
Alors, on dit plutôt Ainsi parla, je crois, Zarathustra,
mais en français,
pour l'œuvre de Richard Strauss.
Oui.
Et on conserve le Ainsi parlait Zarathustra pour l'œuvre de Nietzsche. Bon, après.
Oui, mais le titre allemand ne nous informe pas.
C'est vrai.
Puisqu'en allemand, le prétérit, c'est aussi bien
le passé simple que
l'imparfait. Alors donc, Ainsi parla Zarathustra, bon, évidemment, est d'une célébrité cinématographique, j'oserais dire, puisqu'il y a un déploiement somptueux de l'orchestre symphonique, surtout l'ouverture. Mais enfin, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que cette ouverture. À la suite de cette ouverture, qui d'ailleurs représente un lever du soleil, c'est écrit dans la partition, il y a huit mouvements, en quelque sorte, qui sont enchaînés, huit parties, qui portent les titres des chapitres de l'œuvre de Nietzsche, puisque c'est d'après Nietzsche, c'est Nietzsche qui a inspiré.
C'est un poème symphonique qui illustre, qui est censé illustrer l'œuvre de Nietzsche, Ainsi par les Zarathustra. Et donc, Stanley Kubrick a utilisé pour son film magnifique 2001, l'Odyssée de l'espace en 1968. Pour illustrer le programme de ce concert du 6 mars, nous allons écouter un dernier extrait dans cette émission avec une interprétation d'Ainsi par les Zarathustra de Richard Strauss par l'Orchestre National du Capitole, ici dirigé par le chef vénézuélien Rafael Payare. extrait très célèbre, surtout pour les cinéphiles, d'Ainsi parlait Zarathoustra de Richard Strauss, une version de l'Orchestre National du Capitole en concert il y a quelques années à la Lohgrin, sous la direction du chef vénézuélien Rafael Payare. L'Orchestre National du Capitole est donc en concert ce samedi 6 mars, toujours à la Lohgrin, mais sous la direction du jeune chef allemand Thomas Gugeis. Au programme, il y a donc, outre Ainsi parlait Zarathoustra de Richard Strauss, le prélude et Liebestod de Tristan et Isolde de Richard Wagner. Les romantiques allemands sont à l'honneur lors de ce concert retransmis en direct à partir de 18h sur la page Facebook et la chaîne YouTube de l'orchestre. Et vous pouvez noter que la semaine prochaine, nous allons de nouveau parler de l'Orchestre National du Capitole, puisque son délégué général Thierry Dargoubet sera notre invité. Nous allons évoquer avec lui la programmation de la 3e édition des Franco-Russes. Le festival a lieu cette année du 13 mars au 1er avril, avec de nombreux rendez-vous, dont plusieurs concerts également retransmis en direct sur les réseaux sociaux ou sur France Musique ou Medici TV. Nous vous présenterons tout ça en détail en compagnie de Thierry Dargoubet. Tous mes remerciements à mes amis Serge Chauzy et Robert Pénavert pour leur brillante participation à cette émission et à Christophe Aubry pour en avoir assuré la réalisation. Le podcast est disponible et téléchargeable comme d'habitude dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci de votre fidélité, bon week-end et excellente semaine à tous.